Je voudrais que le mode de désignation du maire de Paris soit commun à l'ensemble des 36 000 communes de France, c'est-à-dire que dans les autres villes à part Paris, Lyon et Marseille, quand vous votez, chaque habitant va voter directement pour son maire.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver pour deux heures de Gai Savoir autour d'un mot, d'un concept dont vous avez entendu parler forcément, mais dont vous ne savez pas exactement ce qu'il veut dire ou à quoi il fait référence. Cet après-midi, zoom sur une réforme en cours qui va peut-être bouleverser votre vie démocratique si vous vivez à Paris, Lyon ou Marseille, la réforme de la fameuse loi PLM, la loi Paris-Lyon-Marseille, qui fait que les maires de ces villes sont élus au suffrage universel indirect, contrairement à toutes les autres villes de France. Un système électoral qui pourrait donc changer à la faveur d'une réforme de cette loi PLM actuellement à l'étude au Sénat. On va évidemment vous expliquer comment fonctionne aujourd'hui cette loi, ce qui pourrait changer avec la réforme, mais si on veut schématiser, il y a aujourd'hui à Paris en tout cas deux camps qui s'opposent. D'un côté, tous ceux qui, de LFI au RN, en passant par les écolos et la plupart des centristes, disent que cette réforme est une magouille pour permettre à Rachida Dati d'être élue maire de Paris en 2026, et de l'autre, Rachida Dati, Pierre Courade et Cyril Lacarrière. Cyril et Pierre, respectivement rédacteurs en chef et rédacteurs en chef adjoint de Zoom Zoom Zen, qui ont vécu ces derniers jours un ascenseur émotionnel terrible, avec d'abord le coup de bambou, la mort de Jean Tiberi. Le dernier vrai maire de Paris, dira Cyril à ses obsèques en serrant très fort la main de Xavier. Et puis là, cet espoir, la réforme de la loi PLM qui pourrait, là je cite Pierre, nous débarrasser de ces soy-boys en Birkenstock et de ces décroissantes altermondialistes qui s'épilent pas sous les bras et qui défigurent les quais avec leur vélo cargo Gaïa. Traduction, vivement la réforme, que Rachida soit élue et nous débarrasse de la chienlit écolo-gauchiste. Alors, cette réforme est-elle vraiment politique, comme le pensent ses ennemis? La loi PLM n'était-elle pas déjà, à l'époque, très politique? Comment voterez-vous en 2026, le temps que Cyril laisse passer ce cycliste qui vient de griller un feu devant lui? Ah bah non, il l'a pas laissé passer. Oh. Zoom zoom zen, c'est parti.
Ça.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Bernard Dolez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Vous êtes politologue, spécialiste des systèmes électoraux, ça tombe bien. Maître de conférence au Centre de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous allez donc tout nous expliquer.
Votre notice est un peu ancienne, mais c'est
ah non, c'est
grave.
Pas ça. C'est Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui, Bernard? Ça m'étonne pas, mais ça, c'est Pierre Courade qui fait la petite bio de l'invité. Je le signale, j'embrasse Pierre. Vous faites quoi aujourd'hui?
Vous êtes allé fouiller dans vos archives, c'est pas possible.
Oui, voilà, je suis allé loin.
Il faut aller sur le site actuel de l'Université Paris 1.
Et alors, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui?
Je suis professeur de sciences politiques et je suis pile dans le même laboratoire, mais c'est pas très grave.
Oh, on les embrasse quand même. Alors, vous allez tout nous expliquer sur cette réforme de la loi PLM qui concerne donc les trois plus grandes villes de France. Juste le temps de vous présenter deux journalistes pour qui il devrait y avoir deux maires à Paris, en fait. Un pour l'Ouest, on s'en fout, et un pour l'Est, qui serait basé au bar Le Cornichon, bien plus central que l'hôtel de ville, selon Manon. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
On pourrait faire un maire par rive.
Hein, ça, oui, rive droite, rive gauche. Ouais. C'est une autre idée.
Hein, on gauche et droite.
Toutes les options sont sur la table. Hein, vu comme ça passe au Sénat en ce moment.
Bon, je vais me présenter, je pense.
À vos côtés, Bernard.
Grande annonce.
C'est amusant, son plus grand fan s'appelle justement Bernard. Peut-être d'ailleurs est-ce vous. Vous lui direz hors antenne. Pour l'heure, je vous présente celle qui va nous brosser le portrait de l'autre personne à suivre, à part vous.
Oui, alors celui du maire de Marseille aujourd'hui qui a du mal à se remettre de la victoire du PSG comme bien d'autres fans de l'OM, comme vous, n'est-ce pas, Cyril, Mathieu?
Oh, non, on a encaissé, on a même.
Vous avez encaissé 5
Comment ça, non?
Non, on n'est pas. Oh, si, je suis d'accord avec vous.
Oui, on a même apprécié la beauté du jeu.
Ouais, c'est pas ce que vous dites
sublime
en off.
Match.
Hein. Si, pas du tout. Hein, c'est exactement ce que je dis en off. Ouais, face à vous, Bernard, lui n'a pas d'avis sur cette réforme de la loi PLM. Il souhaite juste que le vote soit aussi simple et transparent qu'à la dernière élection à laquelle il a participé, même s'il a encore en travers de la gorge la défaite de Laurent Wauquiez. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants et vous les enregistrez, que ce soit via l'option dictaphone de votre smartphone ou toute autre technique d'enregistrement sonore dont vous avez le secret.
Alors, cette loi, le dictaphone,
c'est mieux.
Sur le smartphone, c'est le mieux.
C'est le mieux, c'est le top
sans
du
micro.
Top. Cette loi PLM, ils en pensent quoi, les gens?
Ils comprennent pas grand-chose. Il faut dire que c'est un scrutin particulier, les arrondissements, les maires d'arrondissement, un maire finalement choisi par des conseillers, tout ça donne une élection parfois difficile à lire, celle du municipal. On parle PLM avec des électeurs, des citoyens qui ont eu le bonheur de croiser mon chemin.
Ils ont carrément eu le bonheur de vous croiser.
La joie.
C'est ce qui se passe maintenant. Aux alentours de 16h30, c'est bien beau de vouloir changer un mode de scrutin, mais encore faut-il savoir par quoi le remplacer. Voilà pourquoi le quiz du jour sera consacré aux modes de scrutin les plus farfelus de l'histoire, de la sociocratie à la stochocratie, en passant par l'étonnante pile ou face-ocratie. Juste avant 17h, c'est la plus politisée de nos humoristes, Rosa Burstein, qui nous rejoindra. Après 17h, tous à vos manettes, même si en l'occurrence, cette console est en soi une manette. On zoomera sur la sortie événement de la Switch 2 jeudi. Nintendo joue gros, surtout qu'à l'heure où on se parle, on n'a toujours pas reçu les nôtres. Du coup, ça va être difficile de dire du bien de quelque chose qu'on n'a pas essayé.
Il n'est pas trop tard.
Mais d'abord, zoom donc sur la réforme de la loi PLM. Bernard Delez, pourquoi cette volonté, surtout pourquoi aujourd'hui, de réformer comme ça les modes de scrutin à Paris, Lyon et Marseille? Est-ce qu'il y a vraiment urgence? Le journal Le Monde a réalisé une simulation cet après-midi. Si les dernières élections municipales de 2020 s'étaient déroulées avec la réforme proposée aujourd'hui, les maires actuels auraient quand même été élus. Alors à quoi bon changer?
Oui, probablement, parce que les mouvements en 2020 étaient assez amples. Mais on ne change pas toujours une mode de scrutin pour tripatouiller. Finalement, à vous entendre, tout ça est très compliqué. Moi, je vais prendre une image très très simple. PLM, c'est comme les États-Unis. Il y a le vote populaire, il y a le vote des États.
Les grands électeurs.
Et finalement, pour éviter que tout se joue en Floride, certains esprits aux États-Unis proposent ou proposeraient d'avoir un vote national. Ben, PLM, c'est un petit peu ça.
C'est un petit peu ça, on va y revenir en détail. Lui, il avait demandé l'abrogation de cette loi PLM quand elle avait permis à Bertrand Delanoë de triompher de son meilleur ami Jean Tiberi. Aujourd'hui, afin de venger la mémoire de Jeannot et au nom de l'amitié qui le lie désormais à Rachida Dati, il réclame la réforme de cette loi scélérate. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Rachida Dati.
Qui nous écoute certainement.
Certainement.
Alors, Cyril, c'est à vous que revient la mission de planter le décor. La loi PLM, d'où ça sort?
Je vous présente la loi 82-1170 du 31 décembre 1982, loi qui a un petit surnom, la loi dite PLM pour Paris, Lyon, Marseille. C'est donc en 1982 qu'on décide d'accorder un statut particulier aux trois plus grandes villes de France. Un mode de scrutin à l'américaine, vous avez commencé à le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas du suffrage universel direct comme celle du président de la République ici en France, comme aux États-Unis où on vote par État pour élire des grands électeurs qui ensuite voteront pour élire le chef de l'État. Eh bien, dans ces trois villes, on vote par arrondissement pour Paris et Lyon et par paire d'arrondissements à Marseille. Et comme aux États-Unis, cela amène parfois à des situations où celui qui a le plus de voix n'est pas toujours celui qui est élu. Par exemple, vous l'avez dit Mathieu, lorsque Bertrand Delanoë est élu en 2001, très légèrement pourtant devancé par Jean Tiberi.
Mais alors qu'est-ce qui a présidé à l'instauration de cette dérogation?
La volonté, déjà, de Gaston Defferre. À l'époque, il est ministre de l'Intérieur du président Mitterrand. Sa stratégie à l'époque, c'est de vendre l'idée qu'en choisissant le maire de son arrondissement plutôt que le maire de la grande ville, on renforcerait la démocratie locale. L'autre hypothèse, c'est que Gaston Defferre craignait pour sa réélection à la mairie de Marseille et que ce petit bidouillage lui permettait de garder tranquillement son siège. Une loi qui a eu le mérite de plaire des deux côtés de l'échiquier politique, puisqu'à Paris, Jacques Chirac y a tout de suite vu son intérêt renforcer son emprise sur la capitale. Et c'est ainsi que les trois plus grandes villes françaises ont hérité d'un régime spécial par pur intérêt politique. Alors, est-ce que c'est encore la même chose qui préside à ce nouveau changement? Spoiler, un peu. Qu'est-ce que ça va vraiment changer? Pourquoi est-ce que ça ne sera pas aussi simple qu'on essaie de nous le dire, pour qu'on ne choisit pas tout simplement nos maires au suffrage universel direct. C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Alors Bernard Delez, question simple pour commencer. Pourquoi cette dérogation pour Paris, Lyon et Marseille par rapport au reste de la France n'est pas tout simplement anticonstitutionnelle?
Est-ce que je peux simplement revenir sur ce qu'a dit Cyril?
Oui, bien sûr.
Parce que c'est pas tout à fait juste.
Allez-y.
Allez, pas Cyril.
Ça ne date pas.
On passe un disque.
Ce système à l'américaine ne date pas de la loi de 82, il est antérieur. C'est-à-dire qu'auparavant, à Paris, Lyon, à Marseille, mais aussi à Nice ou Toulouse, en 1977, on avait des élections par circonscription ou par arrondissement. En 82, on a conforté ce système, mais on a fait surtout une décentralisation municipale à Paris, Lyon et Marseille. On a créé des conseils d'arrondissement et des maires d'arrondissement. Et à l'époque, ça a été vu par Jacques Chirac comme une tentative par le gouvernement de gauche d'empiéter sur les pouvoirs du maire de Paris. Voilà. Mais pour le reste, vous avez tout à fait raison. On a évidemment...
Oui, il y a quand même deux lignes dans ton truc qui sont justes. Et ma question alors sur l'anticonstitutionnalité de ce principe, pas du tout?
Du principe, écoutez, non, parce qu'on peut tout à fait considérer que Paris, Lyon, Marseille sont dans des situations différentes.
Spécifiques.
Et au fond, ce qui est spécifique, c'est le mode de scrutin, c'est qu'une conséquence indirecte de cette décentralisation qu'on trouve dans nos trois plus grandes villes, et du fait que le législateur a considéré qu'à Paris, Lyon et Marseille, on devait avoir des conseils d'arrondissement, des maires d'arrondissement, et donc par voie de conséquence, avoir un système électoral qui est ce système indirect que vous décriviez il y a quelques instants.
Et alors, pour se souvenir, avant la réforme de 82, comment les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais élisaient leur maire ?
Alors d'abord, avant 1982, à Paris, ils n'élisaient pas leur maire. Il faut quand même rappeler
comment ça.
Comment
ça se passait ?
Mais il n'y avait pas de maire de Paris.
C'était le préfet de Seine, c'est pas ça ?
Exactement. Le pouvoir du maire de Paris était attribué, était partagé entre le préfet de la Seine et le préfet de police. Pour des raisons historiques très simples, vous prenez parfois, j'imagine, le métro, vous ne roulez pas tous en limousine, donc vous arrêtez parfois la station.
Je suis la seule autour de cette table.
Étienne Marcel, ça doit vous dire quelque chose. Plus près de nous, on a eu la Commune de Paris. En 1870, on a eu le 6 février 34, Paris, c'est le siège des pouvoirs publics. Et donc, pour un certain nombre de raisons, notamment à la protection de l'ordre public, le maire de Paris n'existait pas. On avait un président de conseil municipal, finalement, et le maire de Paris, aujourd'hui, donc, n'a pas tout à fait récupéré les pouvoirs encore du préfet de police.
Mais du coup, il n'y avait pas de maire d'arrondissement non plus ?
Non, tout ça date, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir après Cyril. Tout ça date de 1983.
France Inter. Mathieu Noël.
Manon va de surprise en surprise cet après-midi puisqu'elle a découvert non seulement que Paris, Lyon et Marseille n'avaient pas le même mode de scrutin que les autres villes de France, mais aussi qu'il y avait d'autres villes que Paris, Lyon et Marseille. C'est vraiment la magie du Gai Savoir.
Je connais Angers maintenant.
Vous connaissez très bien Angers. Vous avez découvert que ce n'était pas un village.
J'embrasse
c'était déjà
les
en progrès. Le politologue Bernard Dolez est toujours avec nous pour nous expliquer la future réforme des scrutins municipaux dans les trois plus grandes villes de France. Bernard, que prévoit très concrètement cette réforme ? Comment les scrutins de Paris, Lyon et Marseille vont désormais se dérouler si la réforme est adoptée ?
Alors, je pense que la réforme, elle est plus compréhensible par des provinciaux que par des Parisiens. Tout simplement parce que en province, on a des communes et puis on a des intercommunalités. Mmh. Et donc, actuellement, quand vous aux élections municipales, avec votre bulletin de vote, vous votez pour le conseil municipal et puis vous avez des gens qui sont fléchés, vous savez, qui vont à l'intercommunalité.
Donc, c'est un peu la même chose, là.
Alors, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Finalement, à Paris, Lyon et Marseille, ce qui va changer, c'est-à-dire sur le même bulletin de vote, vous désignez tout à la fois les conseillers de Paris et vos conseillers d'arrondissement. Mmh. Ce qui va changer, je dis ça pour Manon, c'est qu'à partir de la prochaine fois, si la réforme est votée, vous aurez deux urnes, deux bureaux de vote, deux isoloirs, vous déposerez un bulletin de vote avec la liste pour laquelle vous voulez voter pour les élections municipales, et la tête de liste aura vocation à être maire de Paris, peut-être Rachida Dati, et puis vous aurez avec un autre bulletin de vote, vous pourrez désigner vos conseillers d'arrondissement et, de façon indirecte, le futur maire d'arrondissement.
Est-ce que ça ne va pas démotiver les gens à venir voter ? Ça va prendre plus de temps, forcément, c'est une autre organisation. On sait que les derniers...
C'est pour ça que je disais que les provinciaux, ils connaissent mieux que ça. Ils connaissent ça mieux que les Parisiens, les lieux... Enfin, en tout cas que les Parisiens, parce que... En province, très souvent, vous avez des élections départementales qui, dans le passé, ont été jumelées avec des élections régionales, avec des élections municipales. On a l'habitude de voter deux fois. Ouais. Donc, si les provinciaux y arrivent, vous y arriverez, je pense.
Vous citiez d'ailleurs, en antenne, on en parle un petit peu, l'exemple des États-Unis, où vous nous disiez qu'on peut voter pour 50 trucs le même jour.
Oui, alors évidemment, le formalisme est un peu moins grand. Une des objections à la réforme de la loi PLM, c'est qu'il y a beaucoup de maires qui disent... ceux qui sont contre, qui disent, voilà, on ne va pas y arriver à organiser deux bureaux de vote, deux urnes, c'est compliqué, mais comme on le disait tout à l'heure, le jour des élections aux États-Unis, vous votez pour le président, pour vos représentants, souvent pour le gouverneur, les sénateurs, le shérif, etc. Et donc vous cochez sur votre bulletin, il y a 50 croix possibles. Et tout se passe bien, ils savent le faire, les Américains.
Petit point technique, j'ai lu que le texte prévoit l'abaissement de la prime majoritaire à 25% au lieu de 50% actuellement.
Alors, ça, c'est une vraie question, et c'est la question finalement que vous esquissiez tout à l'heure quand vous parliez de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité éventuelle de la loi. Un, sur le principe, la prime de 25% ou de l'abaisser à 25%, c'est pas choquant, puisque c'est cette prime-là qu'on trouve actuellement pour les élections régionales. Finalement, avec une prime majoritaire de 25%, ça suffit, au fond, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que ça suffit pour qu'en cas de triangulaire, la liste qui arrive en tête soit majoritaire.
Là, on comprend le raisonnement, il faut réexpliquer à nos auditeurs ce qu'est la prime majoritaire, peut-être, je vais aller un peu vite.
Vous avez raison. C'est-à-dire que d'entrée, la liste qui l'emporte, aujourd'hui, remporte la moitié des sièges en compétition, la moitié du gâteau, 50%. Et l'autre gâteau est divisé en parts proportionnelles entre toutes les listes, selon le nombre de suffrages qu'ils ont recueillis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec 50% de prime, la liste qui l'emporte prend la moitié des sièges plus la moitié de la moitié. Ça fait les trois quarts. Et les oppositions se partagent un quart.
Donc ça, vous trouvez assez judicieux de réformer ça ?
Alors, En tout cas, ça fonctionne pour les élections régionales, et c'est ce que je vous disais à l'instant, avoir une prime de 25%, ça assure, dans tous les cas, qu'en cas de triangulaire, la liste arrivée en tête aura une majorité. En revanche, ce qui est peut-être problématique, c'est qu'on ait une prime différente à Paris, Lyon et Marseille de 25%
et oui.
des 35 000 autres communes
ça
de France
encore une différence.
Avec 50%.
On réintroduit une différence.
Alors oui, mais si la loi devait aller au bout, on peut penser peut-être que soit cette prime sera alignée sur la province sur 50%, ou soit peut-être que le législateur en profiterait pour abaisser cette prime partout
ailleurs.
À 25%. Pourquoi pas ?
Si on résume, à Paris, Rachida Dati est pour la réforme, alors que la gauche de Anne Hidalgo est contre. À Marseille, le maire de gauche, Benoît Payan, est pour, alors que la droite est contre aussi. Partout, les macronistes poussent pour l'adoption avec LFI et le RN. Bruno Retailleau, en revanche, s'y oppose. En fait, chacun y voit son intérêt local avant d'y voir un intérêt pour la démocratie. On peut le dire comme ça.
Oh oui, on peut le dire comme ça. Et mais on va même le dire plus brutalement. Si Rachida Dati est pour à Paris, c'est pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure. Vous évoquiez le souvenir de feu Jean Tiberi. Qu'est-ce qui se passe à Paris ? Et pourquoi j'évoquais tout à l'heure les États-Unis ? C'est-à-dire que les voix de droite sont aujourd'hui concentrées pour l'essentiel dans les beaux quartiers, dans les quartiers de l'Ouest parisien, dans le 16e, dans le 7e. Que vous fassiez 51% ou 75%, ça ne change pas grand-chose. Alors évidemment, ces voix, elles sont en quelque sorte perdues, alors que si vous votez sur l'ensemble de la capitale, ça se passe autrement. Et dernière petite chose, c'est ce qui explique l'affaire, puisque vous parliez de Jean Tiberi, pour les électeurs qui et les auditeurs qui ont un peu plus de 20 ans, c'est ce qui explique. C'était au fondement de l'affaire des faux électeurs de la ville de Paris, parce que Jean Tiberi avait bien compris que ses voix étaient gelées ou ne servaient à rien dans le 16e arrondissement.
Il les aurait partis ailleurs.
Et il incitait les électeurs du 16e à s'inscrire dans le 5e, ce qui fait que dans tel ou tel studio, vous aviez, d'une rue du 5e arrondissement, vous aviez 32 ou 45 inscrits. mal logés, surtout.
Avec son look travaillé, chaque pièce de sa tenue faisant l'objet d'une validation chaque matin par sa compagne qui bosse dans la mode, on pourrait croire qu'il est parisien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, tu.
Je veux bien. Elle devait pas être là, je pense.
C'est qui, ça y est. Oui, elle est absente en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ?
Elle est là.
Hélas, l'été à la plage, son tatouage Made in Alençon, juste au-dessus du maillot, just above the Sif, nous rappelle d'où il vient, l'Orne. Quentin, c'est donc dans les rues de la capitale, votre nouvelle ville, capitale concernée par cette réforme de la loi PLM, que vous êtes allé trimballer votre micro.
Et pour commencer, j'arrête Annie, 70 ans, illustratrice pour des livres d'enfants, à qui je parle de notre thème du jour.
À haute voix, c'est quoi PLM ?
Paris, Lyon, Marseille.
Ouais.
Elles ont un point commun, ces trois villes. On ne vote pas pour le maire en direct.
On vote pour des maires d'arrondissement.
Exactement.
Oui, ben ça d'accord.
Vous savez qui est votre maire ?
Non. Oui, ça serait choisir une politique par arrondissement et une politique pour l'ensemble de la ville de Paris.
Depuis 82, vous n'avez pas voté pour Bertrand Delanoé en direct.
Oui, je sais. Après Delanoé, il y a eu... Oh là là.
Oh, bah on est toutes perdues, forcément. Heureusement, on remonte le temps et la liste, finalement, est assez courte des maires de Paris.
Chirac, il avait des casseroles. Mais enfin, quand on voit maintenant ce qu'on pourrait avoir avec le Front National ou LFI, finalement, on a de la nostalgie pour Chirac. Tiberi aussi, il avait des grosses casseroles. Delanoé, je crois qu'il était pas mal. J'ai pas entendu beaucoup de scandales. Et Anne Hidalgo, elle est très décriée. Et moi, j'ai pas vraiment étudié les dossiers. J'ai que les chauffeurs de taxi. Vous montez dans un taxi, ils seraient prêts à l'insulter et à lui mettre deux paires de claques. Voilà, c'est tout ce que je sais d'Hidalgo. Il la déteste.
Alors que c'est vrai, c'est pas faux. Ils ont ce point commun, les taxis, ils n'aiment pas beaucoup Anne Hidalgo. Alors je traverse la rue et je remarque ce monsieur, un costume jaune pâle, un Panama et des traits qui me rappellent Claude Chabrol.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Jean-Jacques.
Jean-Jacques, vous avez quel âge ?
Je ne l'ai fait pas, mais j'ai 71 ans. Je ne suis pas retraité, je continue à être actif dans les affaires et accessoirement un peu dans la politique.
Je lui parle de notre sujet du jour.
La loi PLM, j'étais élu de Paris, donc je peux vous répondre ce que vous voulez.
Mais je suis tombé sur un élu de Paris.
J'étais adjoint maire à Paris durant 12 ans.
Sous qui ?
Sous Chirac et Tiberi. Donc la loi PLM, je peux vous donner des cours. Et j'espère d'ailleurs qu'elle sera modifiée. Je voudrais que le mode de désignation du maire de Paris soit commun à l'ensemble des 36 000 communes de France, c'est-à-dire que dans les autres villes à part Paris, Lyon et Marseille, quand vous votez, chaque habitant va voter directement pour son maire.
Tout en me parlant, il me tend sa carte, évidemment, politicien. Jean-Jacques Curiel, président de la Fédération de Paris du Parti Radical, le parti de Jean-Louis Borloo, concernant le mode du scrutin indirect de ces grandes villes, il dit qu'il peut y avoir des conséquences.
Je vais vous donner un seul exemple,
c'était donc avant qu'il y ait la loi PLM, donc dans les années 75 ou 76 exactement, je ne me rappelle pas, Chirac avait été élu maire de Paris, avec le système de l'époque, mais à 2000 voix près, les communistes devenaient maires de Paris.
Paris aurait pu être communiste, Jean-Jacques.
Paris aurait pu être communiste.
Ce qu'aurait été ?
Pas bon pour tout le monde.
Bon. Oh, je suis pas surpris. C'était en 1977, pour être précis. Mais alors, comment ça pourrait se passer concrètement dans un an pour les municipales ?
Il y aura deux jours, le même jour, côte à côte. Vous aurez deux urnes différentes. Ça nécessitera deux fois plus de personnel parce qu'il y a deux urnes. La ville de Paris a suffisamment de personnel pour pouvoir y remédier. C'est pas plus compliqué que ça. Ça se passe dans beaucoup de pays d'Europe. Je vous ai donné un cours de... Voilà, pour vous et pour vos éditeurs. J'espère que ça, je serai entendu.
Et vous êtes entendu. Alain, lui, est assis sur un banc. Cet ancien designer d'intérieur veut qu'on discute et me propose de m'asseoir.
Je prends pas toujours le temps de m'asseoir sur les bancs.
Bah alors, et pourquoi ?
Parce que on court.
Ah voilà, mais c'est ça. C'est la vie parisienne. Quoi. PLM, Paris-Lyon-Marseille. Mais encore ?
Bah oui, je lui explique le mode de scrutin spécifique à ces trois villes.
Non, alors les municipales, je suis pas très doué, je dois dire, puisque moi je ne vote pas aux municipales. Parce que je suis pas...
Pourquoi ?
Parce que je ne suis pas... Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, malheureusement.
Mais est-ce que c'est pas ça, le truc ?
Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, mais c'est vrai que moi je vote toujours au présidentiel. Parce que je trouve que c'est quand même important. Le reste, je reconnais...
Qui est votre maire d'arrondissement ?
Mon maire... Alors, je ne la connais pas. J'habite dans le 12e. Mais je sais que c'est une femme, mais je ne la connais pas.
Manon, peut-être un mot ? Non. Emmanuel Pierre-Marie. Elle a été élue le 11 juillet 2020 et elle est membre du parti Europe Écologie Les Verts. Voilà.
Mais je vote dans le 11e.
Enchantée. Il ne la connaît pas bien et c'est bien le problème, alors que dans de nombreuses villes ou communes de France, le maire est souvent quand même un interlocuteur présent. On le croise sur le marché, à la boulangerie. Qu'est-ce que ça dit des grandes villes ? D'ailleurs, la municipale, c'est dans un an. Est-ce qu'il est prêt ?
Ah, pitié. Alors ça, alors moi je suis un fan d'Hidalgo, je dois être le seul. Ah. Franchement, je trouve que c'est la maire la plus couillue que nous ayons eue. Donc si c'est pour laisser la place à une Rachida Dati ou... Ah non, mais c'est la merde, quoi. C'est horrible, horrible, horrible.
Vous n'allez pas voter pour Rachida Dati, alors ?
Ah, ça, c'est sûr. Déjà, d'une part, je ne peux pas la blairer. Et puis, non, moi je suis très Hidalgo, j'aimerais beaucoup... Que la mairie reste quand même entre les mains d'une femme, mais en revanche, non, pas Dati.
Si Alain veut voter pour une femme à la mairie, il ne votera pas pour le candidat socialiste. Déjà, aujourd'hui, on vote pour une liste dont la tête de liste deviendra maire d'arrondissement. Les membres de chaque liste deviennent ensuite des conseillers de Paris, selon les proportions du nombre d'habitants par arrondissement. Et ce sont eux qui vont ensuite élire le maire de Paris. C'est long. Et demain, peut-être, on glissera deux bulletins le même jour, pour un pour l'arrondissement, un pour la ville, un petit pas pour la démocratie locale, mais un grand bond pour la clarté.
Je crois qu'on commence dans cette émission à se laisser un peu griser par nos audiences, probablement, parce que Quentin a quand même réalisé un exploit aujourd'hui. Il s'est interviewé dans son propre micro-trottoir, hein, quand vous êtes assis sur le banc et que la personne a commencé à vous interroger, Quentin, à un moment. Il ne faut pas perdre de vue mission.
Si on parle aux gens, frontal.
Ça s'appelle un dialogue.
Voilà. Non, mais ce n'est pas ça que j'attends dans le micro-trottoir. Ce que j'ai bien aimé, c'est votre Jean-Jacques.
Ah, qui lui Jean-Jacques.
Était, voilà, ah, oui. Il était docte et c'était un cours professoral. J'ai beaucoup aimé. Bernard Delez, c'est fou, ça, les maires d'arrondissement. Ils restent assez méconnus, finalement, à Paris.
Oui, mais ils ont assez peu de pouvoir. C'est ça qu'il faut dire. Il faut dire qu'au fond... alors, peut-être que la bonne mesure, c'est le nombre, c'est les troupes. Hein. Combien de soldats derrière ? La ville de Paris, c'est à peu près 50 000 fonctionnaires municipaux. Donc, c'est plus que la commission de Bruxelles, pour vous donner un ordre de grandeur. Mais une mairie d'arrondissement, c'est quelques dizaines, c'est peut-être 80, 100, 150 personnes. Ça vous montre... donc, ça gère simplement les équipements de proximité, ça donne un avis sur un certain nombre de délibérations, mais ça a assez peu de pouvoir, finalement.
Quentin. On parle parfois du désintérêt des municipales, mais pas pour les politiques. Hein. En quoi c'est un lieu stratégique, les mairies des grandes villes ? Un Chirac à Paris, Gérard Collomb à Lyon, ou Defferre ou Godin à Marseille, ce sont des mairies stratégiques, politiquement parlant.
Alors... peut-être, pour reprendre ce que disait Manon tout à l'heure, on va sortir de la politique politicienne. Un maire bâtisseur, ça peut transformer sa ville. Je vais prendre quelqu'un qui est décédé aujourd'hui. Je vais prendre un exemple un peu loin de Paris, Lyon et Marseille. Georges Fraîche à Montpellier. Georges Fraîche à Montpellier, qui était maire peut-être de 77 jusqu'au début des années 2010, il a transformé complètement Montpellier. Quoi qu'on en pense, Anne Hidalgo, Elle a contribué à transformer Paris. Mmh. Et je dois vous dire que je suis venu en taxi et je suis tombé, c'est peut-être le seul chauffeur de taxi dans ce cas-là, mais un chauffeur de taxi qui trouve que ça roule beaucoup mieux à Paris désormais et qui était en tout cas pas anti-Hidalgo.
Appelez-moi la prochaine fois pour que je puisse enregistrer.
Mais son numéro.
On dit PLM, Paris-Lyon-Marseille, si les trois ne sont pas d'accord, on ne pourrait pas avoir une différente loi pour Paris, pour Lyon, pour Marseille ?
Alors c'est déjà un tout petit peu le cas. Pour vous rassurer. C'est déjà un tout petit peu le cas parce que à Lyon, on a le Grand Lyon, on a déjà une élection séparée pour les conseillers métropolitains. Alors, il faut dire ici que si la loi PLM était votée, était modifiée, on aurait deux urnes à Paris et à Marseille au lieu d'une, mais à Lyon, on en aurait désormais trois. Voilà, puisqu'il voilà. Il faudrait élire les conseillers d'arrondissement, les conseillers municipaux et donc le maire de Lyon, et puis on continuerait à désigner les élus métropolitains. Donc on fait déjà un petit peu du sur-mesure.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Manon et Quentin ont-ils une bonne connaissance de l'œuvre de notre invité Bernard Dolez ? Ont-ils lu avec suffisamment d'attention son ouvrage clé, La revanche de la gauche, les élections législatives de 97 dans la région Nord-Pas-de-Calais ? C'est ce que nous allons découvrir dans le Zoom Zoom Test.
Moi, personnellement, il se m'attarde dessus.
Ou alors
on n'est pas revu vos fiches.
Ou alors, vous avez raison, vu que vous êtes des brêles, vous n'avez évidemment pas pris le temps de lire l'ouvrage de notre invité. On va plutôt faire un quiz sur les modes de scrutin les plus chelous de par le vaste monde et la vaste histoire. Même si on démarre pas trop loin de Paris, dans cette contrée semi-sauvage, peuplé de bobos n'ayant pas pu accéder à la propriété à Montreuil, qu'on appelle Ivry-sur-Seine. C'est là, vous le savez, que s'est installée il y a quelques années la communauté autogérée des Catogans de Gaïa. Un micro-État dirigé par notre réalisateur Ghislain Fontana et Jerry Pied Birkenstock, et dont la signature olfactive est un mélange toujours étonnant de Pierre Dalin et de Magnésie. Une communauté qui fonctionne selon les règles de la sociocratie, des règles qui consistent à voter à main levée pour décider de se mettre ou pas en grève de la faim contre le chantier de la 69. Demander poliment si quelqu'un, par hasard, n'est pas d'accord pour entamer cette grève de la faim. Ou tirer au sort le malheureux qui sera désigné pour faire cette grève de la faim au nom de toute la communauté, pendant que Ghislain se régale des délicieuses galettes de tofu fumé et autres glaces au lait maternel de Girol, sa compagne.
B. C'est pas la 20. Non, parce que la...
Main levée, moi.
Bah, c'est la démocratie, c'est le principe de... Non, c'est pas ça la sociocratie, allons-y.
Oui, c'est une bonne réponse, Quentin. Et ayez foi en ce que vous dites.
Oui.
Parce que parfois, au hasard, vous pouvez donner la bonne réponse. Oui. Ça vous arrive comme ici, effectivement. Dans la sociocratie, on ne cherche pas une majorité, mais l'absence d'objections fortes. Un mode de sélection, un mode de décision privilégié dans les milieux alternatifs, autogérés, basé sur le consensus coopératif, bref, chez ce que notre rédacteur en chef appelle les illuminés en Sarouel. Et non, on ne tire pas au sort chez les Catogans de Gaïa, même si ce type de scrutin, basé donc sur le principe du tirage au sort, porte un nom bien précis. S'agit-il, selon vous, de la piloufassocratie, la chanceocratie ou la stococratie ?
C'est... J'ai pas écouté, mais je pense que...
Vous n'avez pas écouté.
Non, c'est la bonne réponse, pas évidemment.
Mais c'est hélas la bonne réponse, je suis obligé.
Bah oui, bah désolé, je suis obligé de vous donner le point. Parce que
Maître Enoki, Lucie en régime, me force à vous donner le point.
C'est honteux.
Stococratie, du latin societas, société du grec kratos, autorité. Mais ça, vous le saviez, car vous pensez Cyril Lacarrière, vous pensez autocrate, kratos, l'autorité. Un mode de désignation de ses représentants politiques par tirage au sort, méthode qui devait au moins avoir le mérite de limiter l'ego des dirigeants, forcément, si tu sais que tu dois ton élection à un coup de dé, tu peux difficilement te retrouver en position de crier
« La République, c'est moi !»
La stococratie, donc, ça existe vraiment. Ainsi, en 2022, pour les élections du conseil du comté de Monmouthshire, c'est très dur à dire ça, en l'écrivant on se rend pas compte forcément.
Peut-être une fois, peut-être,
Monmouthshire, au Pays de Galles, deux candidats ayant 679 voix chacun ont été départagés à pile ou face. Mais il y a mieux. Et pour la question qui va suivre, je demande à Pierre Courade, qui a reçu une formation au premier secours lorsqu'il était scout, même si la conception du massage vital enseigné par l'abbé Chibrard ne fait pas consensus dans la communauté médicale, de se tenir prêt à secourir Cyril Lacarrière, au cas où. En 2022 en France, l'inoubliable primaire populaire organisée pour désigner le candidat de la gauche s'est faite selon le mode de jugement majoritaire, une méthode qui consiste à quoi ? À noter les candidats et désigner celui qui a la meilleure moyenne ? À mettre autant de noms qu'on veut et faire les comptes après ? Ou à ne pas désigner celui qui est pourtant arrivé en tête des suffrages.
C.
A.
Alors B et C, pardon.
A et C, Quentin. Oui. Heureusement que j'étais là pour choper les bonnes réponses. A et C, facétieux peuple de gauche. Pour choisir la tête de gondole, la primaire populaire se fera selon le vote majoritaire qui consiste à donner une appréciation à chaque candidat, excellent, bien, passable, etc. Et désigner celui qui aura la meilleure moyenne, ce qui explique pourquoi Quentin n'a jamais été délégué de classe. Une primaire qui permettra de désigner en toute logique, souvenez-vous, Christiane Taubira, qui était arrivée première, Yannick Jadot, qui est arrivée deuxième, ou Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé troisième.
Bah, c'est.
Manon, votre culture politique ne va pas jusque-là, ne remonte
vraiment,
pas. Mais surtout du côté gauche de l'échiquier politique, bah, ça ne vous intéresse pas.
Ça va quand même.
Bon. C'est une bonne réponse de Quentin, oui évidemment, c'était tout simple. Christiane Taubira arrive première avec la mention bien plus, mais elle sera écartée faute de recueillir les 500 signatures. En toute logique, la place doit être dévolue à Yannick Jadot, second, avec la mention assez bien plus. Mais gardons notre capacité d'étonnement, puisque ce sera finalement l'inoxydable Méluche, arrivé troisième avec un honorable assez bien moins, qui sera finalement choisi, hashtag remontada, hashtag...
La République, c'est moi !
Mais tout cela ne serait jamais arrivé avec les méthodes dites du random ballot. Qui consiste à quoi, le random ballot ? Tirer au sort 1000 personnes qui seront les seuls électeurs, tirer au sort 100 personnes qui seront les seuls électeurs, ou tirer au sort un seul bulletin qui désignera le vainqueur de l'élection.
C'est B.
Dommage ce faux pas de dernière minute, Quentin. Bonne réponse de Manon. Réponse C, une méthode qui, heureusement, n'est que théorique en politique, mais fréquemment utilisée pour désigner le vainqueur du Zoom Zoom Test. Et c'est comme ça que je désigne aujourd'hui Quentin, lui, vainqueur du Zoom Zoom Test.
Bravo.
Merci à tous.
Mais je crois que ça colle avec le... Avec, oui, vous avez...
Oui,
vous
avez surtout gagné. Que vous avez oublié que j'avais moins 3 aujourd'hui. Donc.
Mais vous les aurez demain.
Non.
Faut-il mettre fin aux spécificités du scrutin électoral à Paris, Lyon et Marseille ? Zoom sur la réforme de la fameuse loi PLM avec le politologue Bernard Delez. Bernard, qu'est-ce que cette réforme va changer dans le quotidien des habitants de Paris si elle est adoptée ? Vous nous avez dit le même jour, on va avoir deux urnes finalement, mais à part ça, ça ne va pas changer grand-chose ?
Rien.
Donc pas la peine d'en faire tout un foin, en fait, cette réforme.
Ça ne changera que le mode d'élection des conseillers de Paris et... par voie de conséquence, des conseillers d'arrondissement, mais on ne revient pas sur le fond de la loi PLM que vous avez exposé en début d'émission, c'est-à-dire sur les compétences ou la répartition des compétences entre les mairies centrales et les mairies d'arrondissement.
Et donc, ça ne va pas décentraliser à l'échelle de la ville, ça ne va pas donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement.
Rien.
Et pourquoi, à ce moment-là, ne pas avoir, je ne sais pas, dès le départ, supprimer les arrondissements ?
Parce que on considère que dans ces très grandes villes, il est bon néanmoins d'avoir des équipements de proximité. Alors, ça peut être des équipements de proximité tout simplement pour l'état civil. Si vous habitez le 12e, vous n'avez peut-être pas envie d'aller à Paris-Centre pour déposer une carte d'identité.
Oui, oui,
bon, mais au-delà de ça, pour gérer un certain des parcs, des jardins, des équipements, voilà. Mais je vous dis, très peu de pouvoir, des équipements de proximité et un rôle plus politique qu'administratif, au fond. C'est ça qu'il faut retenir, peut-être, c'est que beaucoup d'élus préfèrent, à la limite, être maire d'arrondissement, plutôt qu'adjoint au maire, maire d'arrondissement, parce que, et donc ça renvoie ici à des préoccupations politiques, vous maîtrisez un terrain, un territoire, et c'était surtout important quand le cumul des mandats existait, parce que le maire d'arrondissement était évidemment le mieux placé pour conquérir la circonscription législative attenante. Aujourd'hui, c'est un peu fini.
Il y a quand même des gens qui vont être impactés. Moi, je pense aux assesseurs, les bénévoles en bureau de vote. Quand je vais voter à Paris, souvent, on me dit « Est-ce que vous êtes disponible ce soir pour venir dépouiller, etc. » On va avoir assez de personnes pour pouvoir faire deux élections en même temps ? Ou ça peut être un peu le bazar ?
Écoutez... Peut-être. Alors bon, le pire n'est quand même jamais sûr. Dans un bureau de vote, à peu près, c'est 1000 électeurs. Hein, pour faire une table électorale et pour dépouiller, il faut à peu près 4 personnes, peut-être 2 tables pour un bureau de vote. Ben là, vous en ferez 4. Il faudra 16 personnes au lieu de 8. Je pense quand même qu'on peut trouver, pour faire fonctionner correctement la démocratie, 16 personnes pour dépouiller un scrutin, non ?
Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de timing, faire cette réforme à moins d'un an des élections municipales ?
C'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est un potentiel risque d'inconstitutionnalité de la réforme, puisqu'en principe, les réformes des modes de scrutin doivent se faire un an avant. Et donc là, évidemment, le chrono tourne. Alors évidemment, le vote en première lecture, c'est important, ça crante un petit peu les choses, mais effectivement, on voit mal le débat pouvoir se prolonger au-delà de la fin de session parlementaire actuelle.
Mais du coup, ça pourrait être voté, mais appliqué pas dès maintenant.
Écoutez, on va voir. Regardons déjà si elle va être votée, parce que le vote du Sénat cet après-midi n'est pas acquis. Et puis, si la réforme est rejetée par le Sénat, on repartira à l'Assemblée nationale pour une navette, peut-être une commission mixte paritaire, mais ce n'est pas du tout sûr, donc nous verrons.
Est-ce que, Bernard, il y a d'autres scrutins qu'il faudrait réformer, peut-être plus urgemment, en tout cas, il faudrait s'y pencher ?
Alors, dans la besace de François Bayrou, vous savez qu'il y a la représentation proportionnelle, et pourquoi pas un retour à la proportionnelle telle que, là aussi, je suis désolé pour vos jeunes chroniqueurs, un retour au système électoral de 1986. Et puis, surtout, y a quelque chose sur lequel il faut insister, je pense, c'est qu'avec cette réforme, si elle va au bout, on élirait séparément les conseillers municipaux des conseillers d'arrondissement, je pense qu'on pourrait s'inspirer très fortement de cette réforme en région, dans nos territoires, pour peut-être faire élire séparément, cette fois-ci, les conseillers municipaux et le maire d'un côté, les conseillers intercommunaux et les présidents d'intercommunalités de l'autre. Ça renverrait ou ça permettrait peut-être d'achever une réforme qui est dans les tuyaux depuis très très longtemps. Je suis venu cet après-midi avec un ouvrage édité par le Club Jean Moulin.
Il n'est pas tout jeune.
Il a été édité en mars 1968. Donc il est passé un peu à la trappe cette année-là pour des raisons que vous imaginez bien. Ça s'appelle « Les citoyens idées. Au pouvoir, 12 régions, 2000 communes ». Aujourd'hui, nous avons 13 régions, 1200 intercommunalités, mais 1200 intercommunalités ne sont pas élus au suffrage universel direct. Et ce qui fait qu'on a des doublons, on a encore aujourd'hui des doublons très importants entre les communes et les intercommunalités. Et peut-être que une vraie réforme de l'organisation administrative dans notre pays passerait par ce levier-là.
C'est noté. J'espère que vous m'offrirez ce livre. Vous ne pouvez pas le dédicacer.
Il est collector.
Il n'est pas vous, mais il est assez collector.
Vous écoutez... Si j'en trouve un sur eBay, je vous l'offrirai.
Merci. Vous écoutez Inter, il est 16h47. L'heure de découvrir maintenant la personne à suivre.
Je vous présente Benoît Payan, il a 46 ans, il est marseillais et c'est le maire de Marseille depuis 2020. Il se fait connaître au début des années 2010 comme jeune conseiller municipal d'opposition au maire LR Jean-Claude Gaudin, socialiste convaincu. Il incarne une nouvelle génération de militants marseillais ancrés à gauche, connectés aux réalités locales et surtout excédés par la gestion vieillissante de la ville. Pendant des années, il dénonce l'état des écoles, la saleté, les logements insalubres de Marseille. Et il se fait remarquer notamment sur les réseaux sociaux où ses interventions contre Jean-Claude Gaudin font des centaines de milliers de vues. En 2020, il prend encore plus de poids politique en devenant le chef d'orchestre de ce qu'on appelle le Printemps marseillais, une large coalition de partis de gauche, d'écologistes, de syndicalistes et de citoyens engagés, unis autour d'un même mot d'ordre, tourner la page Gaudin après 25 ans de règne. Lui, il veut être tête de liste pour les municipales de 2020, mais son étiquette PS ne joue pas en sa faveur. C'est donc Michel Rubin Birola, écologiste et médecin, qui est désigné tête de liste pour incarner ce renouveau. En juin 2020, elle gagne, une première pour la gauche depuis les années 90, elle est la première femme maire de Marseille. Mais 6 mois plus tard, coup de théâtre, invoquant des raisons de santé, Michel Rubirola démissionne. Et c'est donc Benoît Payan, premier adjoint à l'époque, qui devient maire de Marseille en décembre 2020. Pour l'opposition, c'est une stratégie politique qui a été mise en place depuis le départ de Benoît Payan pour accéder à la mairie. Certains parlent même de féminicide politique. Mais Benoît Payan est prêt à montrer son investissement pour sa ville. Il lance le plan Marseille en grand avec Emmanuel Macron, qui vise à rénover massivement les écoles vétustes, renforcer les effectifs policiers et relancer les transports en commun. Et puis, on l'a évoqué, Benoît Payan a aussi pris position sur la loi PLM. Il est favorable à sa réforme pour que Marseille rejoigne le droit commun des autres communes françaises. Il défend l'idée que la voix d'un Marseillais vaut celle d'un Bordelais, d'un Lillois ou d'un Niçois et critique le système actuel. C'est le seul maire des trois villes concernées à être clairement favorable à la réforme du gouvernement. De leur côté, Anne Hidalgo parle de tripatouillage à Lyon. Grégory Doucet juge le calendrier trop rapide.
Merci Manon pour ce portrait du sympathique Benoît Payan.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
C'est un moment clé de Zoom Zoom Zen. Ce moment où, muni de son petit carnet, raturé de bout en bout d'une écriture évoquant celle d'un médecin épileptique en fin de vie, Pierre Courade nous résume tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono. Alors souvent, c'est donc un condensé de ce qu'a raconté l'invité, sauf évidemment la fois où on avait reçu Daniel Zaguri, où là, pour la première fois, on avait appris plus de trucs dans la rubrique de Pierre que dans le bouquin de l'invité. Mais c'était vraiment exceptionnel. Pierre, c'est à vous.
Merci. Je rassure notre invité du jour. On a appris plein de choses grâce à vous. Même Manon, qui pourtant, à l'origine, avait préparé une chronique sur un autre groupe de rap francilien avant de se rendre compte que le sujet ne concernait pas PLM, mais la réforme de la loi PLM, Paris, Lyon, Marseille. Une réforme qui vise au départ à remettre dans le droit commun les modes de scrutin municipaux des trois plus grandes villes de France, sauf qu'à l'arrivée, le projet complexifie encore plus le processus électoral. Pour faire simple, aujourd'hui, à Paris, Lyon et Marseille, on vote pour des mairies d'arrondissement de la même manière que dans toutes les autres communes de France. La différence, c'est que les élus les mieux placés sur la liste deviennent aussi conseillers à la mairie centrale et élisent le ou la maire de Paris, Lyon ou Marseille. Un scrutin deux fois indirect. Avec la réforme, les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais vont continuer à élire leurs conseillers d'arrondissement, mais ils pourront aussi voter pour leurs conseillers municipaux qui siégeront à l'hôtel de ville. Deux scrutins, deux urnes. L'idée est de décorréler le poids des arrondissements pour permettre aux citoyens de voter directement pour la mairie centrale, mais ce seront toujours les conseillers municipaux qui éliront le maire. Une modification qui ne changerait rien au résultat des dernières municipales si ce système avait été mis en place, c'est ce que nous dit Le Monde cet après-midi. La droite y perdrait en revanche des plumes, elle s'y oppose naturellement, sauf Rachida Dati, notre invité, le professeur Bernard Delaize, et non pas le maître de conférence, voyons, nous a expliqué que ce scrutin réformé lui permettrait plus directement de conquérir l'hôtel de ville. En résumé, on comprend que la réforme de la loi PLM ne permettra pas à Paris, Lyon et Marseille de revenir dans le droit commun. À un an des municipales, Paris ne vaut pas Metz.
Bernard, j'ai comme la drôle d'impression que Pierre n'a pas dit trop de conneries pour une fois.
Non,
corrigez-moi, Bernard.
Il ne dit jamais de conneries.
Oh, si, vous n'êtes pas maître de conférence depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que vous êtes prof.
Vous avez même vu qu'il arrive à dire en résumé à la fin d'un résumé d'une émission. C'est qu'il se résume lui-même.
Il se résume lui-même, mais c'est ça.
Vous n'avez pas noté ce jeu de mots historique.
Mais non, bon, on s'en fout.
Si on peut rajouter juste un élément de complexité.
Un élément de complexité, mais rapide.
Rapide. C'est que les maires ne sont pas élus au suffrage universel. Tout le monde dit le premier est élu maire et les gens votent pour le maire.
Non.
Le maire est élu par le conseil municipal et on trouve à Vitry-sur-Seine en 2020. La tête de liste s'est fait battre lors de la première réunion du conseil municipal. C'est le cinquième de la liste qui a été élu contre lui. Donc, une fois sur 10 000, ce n'est pas la tête de liste qui est élu maire.
Rosa Burstein, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, la loi PLM ?
Moi, j'aimerais que les initiales PLM, ça évoque la loi pour le matriarcat. Voilà, ça me permettrait de tout décider moi-même et non de débattre avec mon copain, en l'occurrence actuellement, pour choisir le prénom de notre futur enfant. Et depuis samedi soir et la victoire du PSG en Ligue des Champions, il insiste pour Désiré Doué tout attaché. Je lui demande, sérieusement, Désiré Doué Alouche Burstein ? C'est pas un peu long ? Et il me répond tout enflammé, mais non, c'est parfait, parce que ça marche pour les garçons et les filles désirées, et ça lui ira tellement bien, parce qu'il était vraiment désiré, cet enfant. On s'y est repris à 3 fois pour que ça marche quand même, vu que t'étais pas toute jeune quand on s'est rencontrés. Quoi ? Et doué parce qu'il ou elle sera doué 19 ans, tu te rends compte ? Et doué comme toi, bien sûr, pour... Je le vois chercher ce connard. Pour ? Eh bah, pas pour la cuisine, c'est sûr. Non, mais ouais, pour raconter notre vie dans mes chroniques, je suis douée, donc tu vas voir. Non, mais je l'ai vu tout excité, là, quand Désiré Doué a enlevé son maillot. Il s'en est pas caché, ils étaient tous là dans le bar à se frotter la bite les uns contre les autres, à pleurer en s'appelant frère. C'est trop beau, c'est historique, frère. Je t'aime, frère. Je t'aime, frère. T'as des bras incroyables, frère. Je crois que je suis en train de bander, frère. J'avais envie d'appeler Jesse pour qu'il les aide à aller jusqu'au bout de l'expérience. Donc, non, proposition rejetée, ça repart en scrutin. Les grands électeurs dans notre famille, ce sont nos darons, décidément, beaucoup trop d'hommes impliqués, comme en politique, quoi. Mon père est là. Et pourquoi vous n'appelleriez pas votre enfant Moshé, en souvenir de ton grand-oncle, pendu par les couilles dans un pogrom en Pologne ? Alors papa, écoute, parce qu'on veut qu'il ait une belle vie, pleine d'espoir, et pas qu'on l'appelle Moshé le Moche dans la cour de récré. Et peut-être que ce sera une fille. C'est là que le père de Mickaël intervient et propose pour une fille le prénom composé Pastillas Labia Lubia Samsa Shebakia, ses spécialités orientales préférées, pour que notre fille soit destinée dès son plus jeune âge au diabète de type 2. Alors qu'il faut laisser ça aux Américains. Comme la loi PLM, prenez le cholestérol, nous on garde le suffrage universel. Donc je dis à Mickaël, on trouve un prénom français. Sauf que là, il me propose Maxence. Je lui dis la vérité. Maxence, c'est le prénom d'un ex. Il était breton, un peu chauve. Ouais. J'avais vraiment un kink à la vingtaine sur les mecs plus âgés. Je l'ai sucé dans un bois. Wow ! Il m'arrête. Non, stop, ok, j'ai compris. On oublie Maxence. Tant mieux, parce que je me suis jamais tapé de Maxence. Mais cette technique est redoutable. Je l'ai sortie pour Jules, Louis, Mathias, Corentin, Gabin, Lucas, Liane, Fred, Alban, Gus. Ils savaient que j'avais de l'expérience, mais pas à ce point-là. Plus difficile de le dégoûter des prénoms de filles qu'il aime bien et que moi je déteste. Du style Eulalie. Oh. Eulalie, mon cœur, vraiment, t'es sûr ? Ok, bah si tu veux. Oui, non, c'est joli, Eulalie. D'ailleurs, j'en avais une dans ma classe au collège. Aujourd'hui, elle fait l'école à la maison à ses enfants pour pas qu'ils attrapent des puces de 5G dans la cour de récré. Hein ? Les Eulalie, elles finissent complotistes sur Facebook ou druides. Mais pourquoi pas ? À ce moment-là, j'accouche à la maison, pas de péridurale. Toi, tu pousses des cris de loup, tu coupes le cordon ombilical et je tente de nous cuisiner le placenta après pour m'améliorer à la cuisine. Ça fonctionne, ils tournent de l'œil, prêts à s'évanouir. Mais fausses informations ont réussi à torpiller ses intentions de vote. Call me Poutine, la démocratie, c'est ringard. Un peu d'ingérence, des fake news. Les Mélanie, elles prennent de la drogue. Les Eddy, ils font pas d'études. Les Quentin, Ils font des études, mais après, ils font des micro-trottoirs. Hein, donc, bon, là, nous... De toute façon, quitte à s'appeler Bernstein Alouche, autant que notre enfant est un prénom compliqué, je sens que ça va finir en Achraf Hakimi, Ousmane Seni Mayoulou, Alouche Bernstein, l'amour plus fort que la tyrannie.
Merci Rosa, et je vous signale que j'ai eu GC par message, il est tout à fait d'accord pour la proposition que vous faisiez tout à l'heure. On vous retrouve bientôt dans Zoom Zoom, et pour vous voir sur scène, c'est le 16 juin au Théâtre de la Renaissance, dans votre spectacle Dédoublé, et pour la tournée, toutes les infos sont sur le site internet évidemment. Merci Bernard Delez, grâce à vous, la réforme de la loi PLM n'a plus de secret pour nous, et Cyril a bien noté ses erreurs du début d'émission. Vous, surtout, ne bougez pas, puisque...
Utilisez quand même le conditionnel et pas le futur, parce oui. qu'elle n'est pas encore votée.
Vous avez raison, elle est loin de l'être.
Zoom Zoom Zen.